Vous écoutez France Culture. Les matins de France Culture, Marc Voinchet.
Les scientifiques l'appellent le méga chevauchement himalayen, à l'origine de la création de la chaîne himalayenne. Cette collision entre la plaque du sous-continent indien et la plaque eurasienne a engendré le séisme que l'on sait, donc de magnitude 7,8, qui vient de ravager le Népal. Il était 11h56 heure locale samedi matin, lorsque la terre a tremblé sous les pieds de quelques 28 millions de Népalais. Trois jours plus tard, le bilan provisoire ne cesse d'augmenter. On parle désormais de plus de 4000 morts, de plus de 6500 blessés, de plus de 8 millions de personnes touchées, de 1,4 million de personnes qui n'ont pour l'instant pas de nourriture, je rappelle, sur 28 millions d'habitants. L'aide humanitaire s'est vite mise en place. Médecins sans frontières, Handicap International, la Croix-Rouge, Oxfam et bien d'autres organisations non gouvernementales sont à pied d'œuvre sur le terrain pour évacuer, soigner, ravitailler d'urgence les populations touchées. L'aide internationale s'est enclenchée. L'Inde, la Chine, l'Europe ou encore les États-Unis ont annoncé l'envoi de vivres ainsi que des moyens techniques, humains et financiers. Alors, comment sont coordonnées les actions humanitaires sur un terrain compliqué, complexe? Quels sont les moyens dont disposent les secours? Un séisme d'une telle ampleur est-il amené à se répéter? Et le patrimoine népalais est-il menacé? Autant de questions que nous abordons ce matin en première partie. Avant de nous intéresser en deuxième partie davantage plus spécifiquement au Népal, pays assez méconnu, enclavé, le terme n'est pas très beau, pardonnez-moi, monsieur Herman Oubdaya, enclavé entre Chine et Inde. Mégo Tarzian, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président de Médecins sans frontières. Hermant Oupadhyaya, bonjour.
Bonjour.
Président de la Maison culturelle du Népal à Paris. Et vous étiez au Népal il n'y a pas si longtemps, quelques jours.
Il y a juste 10 jours.
Et puis bonjour à vous, Gérard Toffin. Vous êtes un anthropologue, directeur de recherche au CNRS. Vous conduisez depuis longtemps des recherches sur la vallée de Katmandou et notamment vous observez avec attention les mutations politiques, sociales, religieuses et culturelles du Népal contemporain. Vous nous serez évidemment très précieux, mais peut-être un premier point avec vous, Mégo Tarzian. Je sais que nous devons vous libéré à 8h, je rappelle, président de Médecins sans frontières. Quelle est la situation à l'heure actuelle et comment s'y prend-on? Je crois qu'il y a des avions encore qui doivent décoller de France avec quelques-uns de membres de vos équipes à bord.
Oui, les premières équipes sont arrivées en provenance de l'Inde hier à midi. Une deuxième équipe avec des médecins et chirurgiens, logisticiens, est arrivée hier soir en provenance de Belgique et tout à l'heure, une équipe partira de MSF Bordeaux, où se situe notre base logistique. Donc c'est un avion affrété spécialement avec 35 tonnes de matériel médical et médicaments.
Aimante Oupadhyaya, on craint de nouvelles répliques. Vous me dites qu'il y en a eu déjà, de toute façon pas plus tard que tout à l'heure, que ce matin.
Depuis ce matin, je l'ai eu une nouvelle 5h30 du matin d'ici. Et lors local, on m'avait dit, une membre de la famille, j'ai pu réussir à contact avec elle par téléphone Viber. Excusez-moi de citer cette communication. Depuis 5h du matin, lors local, il y a eu 5 et 6 fois réplique. Mais c'est pas énormément comme avant, mais il y en a une réplique toutes les heures, presque toutes les heures, qui secoue le...
Alors, en général, quand ces répliques se produisent, elles provoquent davantage encore de panique, comme s'il fallait rajouter de la panique à la panique. Est-ce que ça complique votre tâche, Mégo Tarzian?
Oui, ça complique notre tâche parce que même si on n'a pas vécu le séisme, nos équipes, mais ça fait peur, c'est un trauma, mais c'est beaucoup plus difficile bien sûr pour les Népalais. Beaucoup de Népalais aujourd'hui, même s'ils n'ont pas perdu leur maison, ils dorment à l'extérieur, dans les rues, sur le trottoir, ils sont traumatisés.
Alors nous allons écouter un témoignage. Il se trouve que dans les équipes de France Culture, il y en a beaucoup qui aiment marcher, s'envoler, escalader, comme Clément Daté, qui est technicien à Radio France et qui était tout récemment en voyage au Népal. Et nous lui avons demandé de nous décrire la ville de Katmandou. Écoutez Clément Daté au micro d'Amélie Perrault.
Katmandou, c'est plus du tout l'image qu'on s'en fait avant, j'imagine, de la ville où tous les hippies du monde allaient courir, ou assez ésotérique. C'est une ville très pauvre et c'est très très dense. Il y a beaucoup d'immeubles assez récents, mais de construction très sommaire. Comme on dit là-bas, c'est le Népali style. Tout est vraiment... c'est le monde de la débrouille. On sait que c'est, quand on est là-bas, c'est une région très sismique. C'est difficile d'imaginer comment tous ces bâtiments qu'on croise tout le temps peuvent se construire. Et une grande partie des bâtiments sont donc ces bâtiments en briques. Beaucoup de ces immeubles de 2-3 étages qui n'ont aucune solidité. Et mêlé à ça le sentiment de très peu d'infrastructures, d'un État avec peu de moyens, donne beaucoup d'inquiétude pour le secours des gens sur place. Les routes sont en très mauvais état, les infrastructures sont très peu existantes. Il y a déjà le secours actuel, le besoin d'aide qu'ont le besoin des gens actuellement pour les premiers instants, mais ça laisse beaucoup d'inquiétude pour la suite des événements.
Et Clément Daté, technicien à Radio France, et il faut rajouter, pour compliquer les choses, Gérard Toffin, vous compléterez bien sûr le tableau tout au long de cette émission, qu'en plus il y a qu'une seule piste à l'aéroport de Katmandou.
Oui, c'est ça. Pour l'acheminement des secours, il faut bien voir plusieurs choses. C'est que les avions modernes ne peuvent atterrir que sur une seule piste à Katmandou, avec une seule voie d'accès seulement. L'aéroport est très très vite encombré, parce que le trafic domestique, le trafic international commercial continue, et en plus arrivent donc tous ces gros avions plein de ravitaillement. Par ailleurs, concernant la vallée de Katmandou, il faut bien voir que le tissu urbain est fait de cours, d'arrière-cours. Il y a quelques avenues dégagées, mais le tissu urbain est extrêmement difficile d'accès pour aller de maison en maison dans le vieux quartier, dans les vieilles villes. Par ailleurs, il y a aussi tout l'arrière-pays rural où l'épicentre s'est déroulé et qui est extrêmement difficile d'accès parce que les routes sont très sommaires, l'infrastructure routière est très très fragile et la situation était encore accentuée par les nombreux glissements de terrain qui se sont produits à cause du tremblement de terre au cours de ces derniers jours et qui coupent les routes.
Est-ce qu'on sait quels sont les premiers soins et quels sont les tout premiers soins qu'il faut apporter, Mégo Terzian, je rappelle, président de Médecins Sans Frontières?
Ce sont les patients qui se présentent avec du trauma, blessures différentes, fractures notamment. Selon mes collègues qui sont arrivés hier soir, plusieurs patients attendent devant des hôpitaux. Tous ont des factures, multifactures. Et ils n'ont pas accès à l'hôpital. Donc il y a 2 salles opératoires sur 10 qui étaient fonctionnelles, par exemple, dans l'un des hôpitaux qu'on a visité hier soir. La situation est très difficile pour les médecins.
Et vous allez envoyer, vous avez déjà envoyé un hôpital gonflable?
Oui, on envoie
tout à l'heure. Qu'est-ce qu'un hôpital gonflable?
C'est un hôpital, ce sont des tentes qui vont être gonflées et en espace de 48 heures, on sera capable d'être opérationnel et recevoir des patients et pour les opérer et ensuite pour les hospitaliser.
Emma Upadhyaya, évidemment la question elle est de ce qui se pose, elle est pour ceux qui sont blessés gravement et qu'il va falloir soigner, mais que va-t-on faire et comment faire avec ce chiffre qu'on apprend sur ces 1,2 millions de personnes qui n'ont rien à manger?
C'est vrai, c'est juste ce matin aussi des membres de ma famille qui m'ont dit là maintenant il en manque de nourriture. Et le gouvernement il commence à distribuer une bouteille d'eau et un petit paquet de nouilles par personne le soir simplement. Donc et ça ne suffit pas. Et c'est un paquet de nouilles, c'est même pas 50 grammes. Donc c'est le gouvernement, ils n'arrivent pas encore faire cette tâche qui est tellement difficile. On comprend d'ici, mais le premier soin, qu'il faut faire, c'est aller le voir comme Médecins Sans Frontières qui sont là, leur équipe et qui l'envoie autour de tous les quartiers. Qu'est-ce qu'ils ont besoin? C'est il n'y a pas que de Vallée de Katmandou qui sont complètement rasé. Mais il y a derrière aussi, quand on regarde les villages qui sont rasés complètement, comme Saint-Coup, qu'on avait parlé un petit peu tout à l'heure avec M. Toffin, qui connaît mieux que moi. Et là, les gens, ils attendent. Mais les soins n'arrivent pas. Il y a le soin, il y a la nourriture. Il y a la vive, donc c'est de l'eau aussi qu'il en manque. C'est ce que je profite à dire. Les gens, s'ils veulent envoyer, c'est des purifications d'eau qu'il faut l'envoyer parce que ça, la maladie, ça commence à propager. Les cadavres qui sont enterrés, encore qui ne sont pas sortis, ça commence à sentir mauvais. Donc c'est ça aussi qu'il faut qu'ils s'occupent sur place, l'équipe de humanitaire.
Alors sur place, des bonnes volontés se sont mises en route très rapidement et quelques Français aussi. Écoutez Adrien Bauer qui a 29 ans avec un de ses amis, Olivier Kido. Il était parti il y a quelques semaines pour un voyage de l'an en Asie du Sud-Est. Ces deux Bretons qui viennent du Finistère étaient au Népal depuis le 18 mars. Samedi, ils étaient à Pokhara, à 200 km de Katmandou et à 100 km de l'épicentre. Et depuis, ils ont décidé de prolonger le voyage, de se rapprocher de Katmandou pour venir en aide à ceux qui en ont besoin. Ils ont été joints hier par Amélie Perrault, avec notamment, puisqu'on cite des moyens, Skype.
On a senti un gros mouvement, le sol, comme si le sol flottait et l'impression d'être un peu sur une planche de surf et que tout glisse sous vos pieds. Voilà, alors que physiquement vous êtes bien sur la terre ferme, sachant qu'à Pokhara la ville a été moins touchée parce que les bâtiments sont beaucoup plus récents, les constructions un peu plus basses qu'à Katmandou. Mais c'est vrai qu'aux alentours les villages ont été très très fortement touchés et donc du coup il y a des missions qui se préparent un peu de façon anarchique aujourd'hui, mais voilà, il y a des gens qui apportent leur aide et nous on essaye de faire un maximum de choses pour pouvoir aider ces gens-là. Les gens sur place, à Katmandou et dans les villages aux alentours, manquent de tout, de nourriture, d'eau. Ils n'ont plus rien, tout a été détruit, tout a été perdu dans la catastrophe.
Voilà, vous pouvez suivre ces deux Bretons, Olivier Kido et Adrien Bauer, sur Facebook à l'adresse suivante yolotravel.fr. Et donc depuis samedi, ils aident comme ils peuvent les gens, notamment aussi, ils essaient de fédérer à travers justement tous les moyens possibles, Facebook ou Skype, d'autres aides, et notamment françaises.
Il y a énormément de personnes qui nous ont contactés pour avoir des nouvelles de leurs proches, soit présents à Katmandou, soit en trek, soit à Pokhara. Donc aujourd'hui, on a passé la journée à compiler toutes ces informations, à réaliser des impressions. On va essayer de les afficher dans un maximum de magasins pour que voilà ces personnes donnent des nouvelles à leur famille. Et par la suite, nous envisageons fortement de rejoindre Katmandou pour aller aider de la meilleure façon qui soit. Donc aujourd'hui, nous sommes en contact avec l'ambassade de France et nous attendons un retour de leur part pour savoir dans quelle mesure nous pouvons venir aider à Katmandou.
Mégo Terzian, quel conseil donneriez-vous à ceux qui veulent donner un coup de main, mais qui parfois pourraient aussi, en donnant un coup de main, créer quelques maladresses? Que faut-il faire et que faut-il ne pas faire surtout?
Un coup de main, oui, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Il faut des professionnels pour continuer les activités de sauvetage, les opérations de sauvetage. Ce sont des armées en général ou protection civile. Donc des amateurs vont avoir des difficultés pour sauver des gens. Même si les premières opérations de sauvetage avaient été organisées par les Népalais eux-mêmes, par les voisins, etc. Mais il faut des professionnels pour aller plus vite et pour transporter les patients en toute sécurité vers les structures sanitaires. Et en deuxième étape, il faut installer donc des hôpitaux supplémentaires pour organiser donc les activités, notamment chirurgicales, pour les patients qui nécessitent des opérations orthopédiques. Il faut organiser aussi les soins globaux pour les populations sinistrées, les soins de base jusqu'à les soins spécialisés.
Gérard Toffin, généralement, et évidemment c'est la partie pas la plus facile forcément à aborder, mais on dit que un séisme est ce qu'il devient, est le reflet de ce qu'est un pays, mais pas tant seulement sur sa question géologique, mais aussi sur sa question presque sociétale, politique, géopolitique. Que révèle selon vous ce séisme terrible dont on craint, encore une fois, on parle beaucoup de Katmandou, mais c'est pas seulement Katmandou, vous entendez qu'il est dévasté une très grande partie du pays, objectivement.
Oui, le tremblement de terre a fait des dégâts finalement sur une zone aussi très... Enfin, l'épicentre et la zone de dévastation, et c'est sur une zone très très peuplée. La vallée de Katmandou, environ 3 millions d'habitants, et tout ce moyen pays des collines... compartimenté, difficile d'accès à partir de Pokhara jusqu'à l'est, à l'extrême est, jusqu'à la frontière indienne à l'est du Népal. Donc c'est une zone extrêmement peuplée, difficile d'accès, avec des axes nord-sud qui sont très souvent coupés. Et j'ai eu des Népalais récemment, les Népalais que j'ai pu avoir par les différents moyens au cours de ces derniers jours sur place, me disent on vit une vie, selon l'expression népalaise, de sukumbashi, de sans-abri. Ils sont tous à la rue, par peur des répliques et des bâtiments déjà extrêmement fragilisés, modernes ou anciens. Donc, ils ont peur que ça s'écroule. Et d'ailleurs, il y a eu même des consignes gouvernementales en ce sens-là. Donc, ils vivent sous la pluie, sous des tentes, dans la rue, au centre de la rue, si possible, ou sur des places, dans les jardins publics. Et ça, depuis 3 jours. Et ça va continuer encore quelques jours, par peur des répliques qui sont fréquentes. En 1934, le grand tremblement de terre, le dernier grand tremblement de terre de 1934, ça a été exactement là. Enfin, on revit un peu ce grand tremblement de terre qui avait une force 8, dans la mesure où il y a eu des répliques aussi pendant une semaine. La Terre a tremblé pratiquement pendant une semaine. Alors, qu'est-ce que ça reflète? Ben, pour moi, ça reflète quelque chose que je pense concernant le Népal. Au Népal, l'État est très faible, mais la société civile est très forte. Et ça se vérifie. Les systèmes d'entraide locaux sont extrêmement puissants. Les gens s'entraident localement. Il y a encore des tissus d'appartenance sur les quartiers urbains, les vieux quartiers urbains, moins sensibles dans les nouveaux quartiers. Et l'État ne peut pas faire grand-chose.
L'État, vous confirmez alors, Aimant Upadhyaya, je rappelle, président de la Maison culturelle du Népal à Paris?
Ça, je confirme 100%. Parce qu'il y a l'État, maintenant, c'est, tout ce qu'ils ont fait, c'est qu'avoir le pouvoir. Mais ça, je m'excuse d'ajouter, mais tous les Népalais qui sont au Népal et l'extérieur du Népal, ils le savent. Maintenant, ils ont déjà montré au gouvernement, attention, toute l'aide qui arrive de l'extérieur, faut pas gaspiller et faut pas mettre dans leur poche.
Oui, attention, dans ces cas-là, c'est un phénomène classique de corruption, voilà. Mais ça n'existe pas, la corruption au Népal, bien sûr.
C'est un phénomène majeur, non, oui. Comme en Inde. La corruption fait partie du paysage politique, bureaucratique, local, et c'est un des gros problèmes auxquels doit faire face le Népal. Non,
c'est un des problèmes auxquels il faut s'affronter aussi quand on est président d'organisation non gouvernementale ou de MSF. Il faut faire avec, si j'ose dire, les coutumes entre guillemets locales,
mégotherviens. Mais malheureusement, c'est inévitable. La corruption, c'est pas que au Népal, c'est un peu partout dans les pays d'intervention de MSF. C'est pour cela que nous, on envoie massivement des volontaires humanitaires pour être en action directe auprès des bénéficiaires et être sûr que l'aide est distribuée d'une façon efficace à tous les bénéficiaires.
Voilà, je rappelle, vous êtes président de Médecins Sans Frontières et que nous vous libérons. Donc vous nous avez dit, un avion part de Bordeaux dans quelques instants, entre autres avec des équipements de MSF à destination de Katmandou. La deuxième partie nous permettra, Gérard Toffin, de connaître mieux ce pays qui a tant fait rêver tout de même. Alors évidemment, on pense à Alexandra David-Nel et d'autres encore, on pense au voyage des Européens des années 68. Pourquoi et quelle fascination y avait-il à faire le voyage en deux chevaux Paris-Katmandou, qu'a failli faire même Brice Couturier, Gérard Toffin?
Parce que c'était un paradis perdu. Un paradis, une espèce d'Éden en dehors. C'est un pays qui s'est ouvert à la civilisation occidentale, au monde, en 1950-55. Donc c'est un pays qui avait une allure un peu de Moyen-Âge. On y allait très difficilement et on se trouvait devant une population qui était préservée, même par rapport à l'Inde. On avait des monuments architecturaux magnifiques.
Et on y allait pour quand même goûter à quelque part
quelques herbes magiques.
Enfin, pas de Provence en l'occurrence. Hein, Nicolas Bouvier, David Nel, littérature. Il n'y est pas allé jusqu'au bout, lui, Couturier. Alors, qu'est-ce que vous avez foutu, Brice Couturier?
La deux chevaux a cassé 200 km après Ankara, mais aucun des participants du voyage n'imaginait qu'on irait vraiment jusqu'à Katmandou. On s'arrêtait généralement au pudding shop d'Istanbul, qui était le lieu de passage, enfin le transit entre Paris et les autres capitales européennes et Katmandou. Mais je vais vous parler de choses beaucoup plus sérieuses. Vous en faites pas, j'ai pas fumé la moquette, pas dès le matin en tous les cas. Le Népal est culturellement proche de l'Inde parce qu'il est hindouiste, mais il est écartelé en réalité entre les influences indiennes et chinoises. On remarque sur place que les Chinois investissent énormément dans les infrastructures. Ils ont notamment construit une autoroute. Alors, est-ce que les Chinois ou les Indiens pourraient aider, et nous aussi, les Népalais à reconstruire leur capitale dévastée selon les normes antisismiques en vigueur dans les pays riches comme le Japon?